Vous écoutez On lit pour vous.
Jouer dehors, même avec un handicap. Un texte de Marie Tison, paru le 25 janvier 2025 dans La Presse. Tout le monde devrait avoir la possibilité d'aller jouer dans la nature, de profiter du plein air, quelle que soit sa condition physique ou son handicap. Des gens travaillent très fort pour que ce soit une réalité, comme les 250 bénévoles de la Fondation des sports adaptés. C'est une organisation née en Estrie, mais qui a étendu ses activités aux Laurentides, à la Naudière, à la Mauricie et à la région de Québec. Citation : Personnellement, le fait de pouvoir retourner à l'extérieur, c'est le meilleur remède qui existe. C'est bon pour le corps, c'est bon pour l'esprit. Fin de citation, lance Fred Morin, un participant paraplégique qui a tellement progressé dans la pratique du monoski qu'il joue maintenant un rôle de bénévole à la Fondation. C'est en 1995 que Peter Treacy, skieur de Knowlton amputé d'une jambe, a créé la Fondation des sports adaptés afin de partager sa passion avec des enfants et des adultes vivant avec un handicap. Il y a une dizaine d'années, aux prises avec des problèmes de santé, il a sollicité l'ancien footballeur Steve Charbonneau pour l'aider à trouver un successeur. Citation : Je ne connaissais pas la Fondation des sports adaptés, se rappelle M. Charbonneau. J'ai fait des recherches, j'ai regardé leur site, puis je l'ai rappelé le lendemain pour lui dire que j'avais trouvé quelqu'un. Je lui ai annoncé que je me portais candidat. Fin de citation. Le conseil d'administration et Steve Charbonneau ont réalisé qu'ils avaient la même vision. Prendre de l'expansion pour offrir plus de sport dans plus de régions. La Fondation offre également son soutien aux groupes scolaires qui ont un élève en situation de handicap. Citation : Quand il y a une sortie scolaire, dit Steve Charbonneau, cet enfant se fait dire de rester chez lui parce que les écoles ne sont pas équipées pour faire une sortie avec lui. Je me suis dit : Non, ce n'est pas vrai qu'on va laisser ce jeune à la maison pendant que ses chums vont se faire du fun dans la montagne. Fin de citation. La Fondation des sports adaptés travaille également avec d'autres fondations, comme Starlight et Papillon. Elle a aussi un programme pour les vétérans, qui vont souvent devenir bénévoles à leur tour. Dans de nombreux cas, il s'agit de vétérans qui ont quitté l'armée pour des raisons médicales, notamment pour le syndrome du choc post-traumatique. Citation : On veut leur donner une deuxième mission dans la vie, une raison de se lever le matin et de venir aider les personnes en situation de handicap à faire du sport de plein air, déclare Steve Charbonneau. Notre objectif, c'est de sortir ces deux clientèles-là de leur isolement et de créer des journées d'activités très inclusives et de partage. Au fond, le sport devient un prétexte pour socialiser, pour gagner de la confiance en soi. Fin de citation. Et de fait, les vétérans deviennent de très bons bénévoles et constituent 10 % de la banque de bénévoles de la Fondation. La Fondation des sports adaptés fournit également du matériel aux familles pour leur permettre de pratiquer certains sports qui présentent moins de risques que le ski alpin, comme le patin-luge et le ski paranordique. Citation : On leur donne un petit cours 101 pour expliquer comment ça fonctionne, mais il n'y a pas grand danger de blessure, note M. Charbonneau. Le ski de fond sur un terrain de golf l'hiver, on s'entend qu'ils ne se feront pas frapper par personne. Fin de citation. Ce sont toutefois les sorties de ski alpin et de ski nautique de la Fondation qui accueillent le plus grand nombre de participants, soit environ 1000 personnes par année. Environ 200 autres se joignent à des activités de planche à pagaie, de vélo de montagne, de kayak et de golf. C'est en faisant du vélo de montagne que Fred Morin s'est blessé il y a 2 ans et demi et est devenu paraplégique. C'est un physiothérapeute de l'Institut de réadaptation Gingras-Lindsay qui lui a parlé des activités de la Fondation des sports adaptés. Citation : Le sport, dit-il, a toujours été présent dans ma vie. Après mon accident, on s'est dit qu'il fallait trouver un moyen pour ressortir à l'extérieur. Fin de citation. Il a essayé des sports intérieurs, comme le basketball en fauteuil roulant, mais ça l'intéressait moins. Il s'est donc tourné du côté du ski alpin avec la Fondation. Ça faisait plus de 25 ans qu'il n'avait pas skié, mais il a réussi à devenir autonome en monoski dès la première saison, ce qui lui a permis de jouer un rôle de bénévole. Citation : Je me promène sur la montagne, je vais voir les autres participants, Je partage mon expérience, je donne des trucs. » Fin de citation. C'est la même chose pour le vélo de montagne qui est demeuré sa passion. Citation. « J'utilise mon vélo à main à assistance électrique qui va partout. Je vais avec les participants, je leur montre comment le vélo réagit dans les virages. » Fin de citation. Fred Morin est ainsi devenu un des ambassadeurs de la Fondation. C'était « Jouer dehors, même avec un handicap », un texte de Marie Tison, paru le 25 janvier 2025 dans La Presse.
Protéger le Mont-Royal sans en expulser l'humain. Un texte de Sarah Champagne, paru le 3 février 2025 dans La Presse. Comment préserver le couvert forestier et protéger les oiseaux du Mont-Royal sans en expulser les humains? Comment protéger le paysage des collines d'Oka, les vergers de Rougemont, la faune du Mont-Saint-Hilaire et celle du Mont-Saint-Bruno sans y freiner le développement? Le tout sans entraver la nature et nuire au tourisme, à l'agriculture et au patrimoine bâti. Au cours des derniers mois, des citoyens, propriétaires immobiliers, écologistes, producteurs agricoles et experts en environnement ont tour à tour pris la parole. Ils ont débattu d'un projet ambitieux de la Communauté métropolitaine de Montréal, CMM, celui d'obtenir un statut provincial de paysage humanisé des collines montérégiennes du Grand Montréal d'après la loi sur la conservation du patrimoine naturel. Un statut d'une portée minimale de 25 ans. Cette reconnaissance d'aire protégée promet d'aller bien au-delà du simple règlement, en incluant surveillance, cartographie des espaces verts, dénombrement des espèces, création de bandes riveraines, possibilité d'agrandir le territoire protégé, etc. Les audiences publiques ont commencé à l'été 2024 avec la formation de comités. Elles ont pris fin en janvier 2025. Au Mont-Royal, la notion de paysage humanisé est implantée depuis des décennies, notamment à travers ce qu'on appelle la science citoyenne. La presse a été invitée par l'organisme Les Amis de la montagne à effectuer du Feeder Watch hivernal avec Pascal Bélanger-Lavallée et Jérôme Bernier-Brion, respectivement chef des programmes d'intendance environnementale et chercheur en environnement. Le Feeder Watch, qu'on pourrait traduire par « dénombrement des oiseaux », est une activité citoyenne populaire en Amérique du Nord. Elle a lieu de novembre à avril. Il existe même une application mobile pour compiler ces résultats, se référer à des guides d'identification des espèces, soumettre des photos, etc. Au sommet du parc Mont-Royal, 7 mangeoires ont été installées le long d'un parcours en boucle doté d'une vue saisissante sur le centre-ville à partir d'un pavillon. Les mangeoires sont remplies de graines de tournesol à écailles noires. Des employés et des bénévoles veillent à leur entretien. Pour dénombrer les oiseaux, Pascal Bélanger-Lavallée indique qu'il faut s'imaginer un cylindre de 10 mètres de diamètre qui s'étend du pied d'une mangeoire jusqu'à la cime des arbres. Pour chacune des espèces, on recense le nombre d'individus le plus élevé observé au même moment dans l'aire de décompte durant la période de recensement minimale de 10 minutes. Par exemple, 4 chardonnerets jaunes aperçus simultanément aux environs d'une mangeoire. Cette technique permet de prévenir le double comptage d'un même individu pour éviter de surévaluer la population réelle. L'activité se répète plusieurs fois durant l'hiver, ce qui permet d'évaluer la santé des différentes espèces, ajoute Jérôme Bernier-Brion. Par exemple, des roselins ont déjà souffert d'une forme de conjonctivite qui brouillait leur vue pour bien s'alimenter en forêt, raconte le chercheur. On peut observer des mésanges à tête noire à profusion, des sittelles à poitrine blanche par dizaines, des roselins. Un couple de pics mineurs a même été capté par notre photographe. Également, 2 cardinaux rouges, des oiseaux chanteurs de dû. La science l'explique difficilement, mais cette année, on peut parfois en compter jusqu'à 7 simultanément, alors qu'on en observait 2 au cours des années précédentes. Sa population a explosé dans les centres urbains du Québec, selon l'Atlas des oiseaux nicheurs du Québec. Crainte d'expropriation. Les collines montérégiennes, en incluant le Mont-Royal, représentent un gros réservoir de biodiversité. À part les oiseaux, plus de 89 espèces floristiques et 47 espèces animales en situation précaire y sont répertoriées. Selon Laurence Mador-Bellumeur, chargée de projet des consultations sur la reconnaissance de paysages humanisés à la CMM, les citoyens sont ouverts au statut d'aire protégée. Le Feeder Watch est un exemple parfait de l'humain en soutien au milieu naturel, explique-t-elle. À part l'Union des producteurs agricoles, UPA, qui a exprimé des craintes, on a reçu un appui largement favorable au projet de reconnaissance. Les agriculteurs veulent s'assurer qu'il n'y aura pas d'expropriation, de changement de zonage, mais sinon, les gens reconnaissent la nécessité d'un meilleur équilibre entre la nature et l'humain. Compte tenu du caractère nouveau du statut humanisé, le Conseil régional en environnement de Montréal, CRE, a recommandé lors des audiences d'aller plus loin en limitant les activités socio-économiques dans l'aire protégée des collines. À cet égard, le CRE a souligné dans un mémoire déposé lors des consultations qu'il est impératif de respecter les recommandations de l'Union internationale pour la conservation de la nature, UICN, en évitant de consacrer plus de 25% de l'aire protégée à des activités socio-économiques. C'était « Protéger le Mont-Royal sans en expulser l'humain », un texte de Sarah Champagne, paru le 3 février 2025 dans la presse.
Un éléphant dans la pièce vide. Un texte de José Blanchette, paru le 24 janvier 2025 dans Le Devoir. J'ai eu l'impression de cligner des yeux toute la semaine devant mon écran. What? Je ne fais plus la différence entre une série dystopique sur Netflix et la réalité. Dans un registre mineur, comparativement à un salut nazi, on épingle de plus en plus les solos pour expliquer le problème de la crise du logement. Chez les fascistes ultranationalistes natalistes, la famille reste le socle de la moralité et la réponse au grand remplacement. Écrite par une mère 4 fois, mon arrière-grand-mère l'a été 12 fois, ça compte ou pas. Ces lignes m'ont fait sursauter. Elles ne nous expliquent pas que la crise du logement est multifactorielle et due à la spéculation, aux rénovictions et aux flips immobiliers, à la gentrification des quartiers centraux dans les villes, à la pénurie de logements sociaux ou hors marché, donc abordables, à certains immigrants fortunés avantagés par le taux de change, on pourra bientôt payer en euros sur le plateau Mont-Royal, aux pieds-à-terre et aux logements ou résidences secondaires vides, aux Airbnb retirés du parc locatif à des fins touristiques, au manque de main-d'œuvre pour les mises en chantier, etc. Après les étudiants étrangers et les nouveaux arrivants, ce sont les personnes seules qui sont désormais à blâmer. Ça prend de la place, la solitude, cite la mère de 4 marmots. Nous en sommes là, à cibler non pas les ultra-riches qui souffrent d'obésité spatiale, là, les pièces vides, mais plutôt les gens qui parlent avec leur chat. Le Canada est le pays qui affiche le moins de gens seuls des pays du G7 avec 3 ménages sur 10. C'est plutôt 4 sur 10 en Finlande, en Allemagne ou en Norvège, avec les États-Unis. Cette hausse des solos s'explique presque entièrement par le vieillissement de la population. Ben oui, la faute aux vieux, mais surtout aux vieilles. Citation. En réalité, la bourgeoisie n'a qu'une méthode pour résoudre la question du logement à sa manière, c'est-à-dire la résoudre de telle sorte que la solution engendre continuellement de nouveau la question. Frédéric Engels, philosophe, The Housing Question, 1872, extrait traduit par Marcos Ancelovici. Les natalistes au pouvoir. Quand on regarde derrière les chiffres, le problème s'avère plus complexe que de dénoncer des veuves, de plus en plus tard d'ailleurs, ou des individualistes forcenés qui n'ont pas envie de partager les pulsions nocturnes de ton oncle Raymond. Ce qui occupe davantage d'espace immobilier qu'un célibataire parqué dans son condo appart, le cas de 56% d'entre eux, eh bien, c'est une famille dans une maison individuelle non attenante, 61% des ménages de 2 et plus. Elon Musk, obsédé par la dénatalité, a fabriqué 12 petits enfants avec 3 mères et des mères porteuses. Il y a encore de la marge. Mais les enfants, à moins d'être tous des tanguis qui s'accrocheront comme des morpions à leurs géniteurs, vont finir par débarquer dans un marché immobilier où il manquera 3,5 millions de logements d'ici 2030, au Canada seulement. Citation. If we stop having baby humans, there will be no more humanity. Elon Musk, sur X, le 18 janvier 2025. Tu vois, chère mère de 4 moutards qui trouve que les Airbnb, c'est pas une si mauvaise idée de partage, je t'invite à lire « Défendre le logement, nos foyers, leur profit », écrit par 2 professeurs américains. Dans sa préface, le directeur du département de sociologie de l'UQAM, Marcos Ancelovici, souligne que 13 713 logements entiers ont été retirés du parc locatif à Montréal en 2021 par les Airbnb. Se loger décemment étant devenu un privilège, il semblerait que voyager soit demeuré un droit pour ceux qui en ont les moyens. Selon les auteurs, la crise du logement, en théorie un état d'exception, n'en est pas une puisqu'elle est le lot des pauvres depuis plus d'un siècle. Elle est devenue une crise lorsqu'elle s'est étendue à la classe moyenne. La jeune sexa que je suis songe au polyamour pour rentabiliser son lit queen, au couch surfing ou à dormir dans l'auto pour maximiser l'espace. J'ai déjà essayé les mariages, la monoparentalité, le couple non cohabitant en hausse, la cohabitation forcée par la pandémie, les colocs après le nid vide, en hausse aussi, et le célibat par choix ou non, ça dépend si Vénus est en balance ou en crise. Parce que ça n'arrive pas que dans les films. On nous jette parfois après usage pour des modèles plus récents. Et nous aurions à subir l'odieux de notre état civil. Tu as beau porter une auréole, sache que les néo-bros s'en battront les couilles lorsque viendra le temps de faire les comptes. Citation. Bref, la crise du logement est en grande partie le produit de décisions politiques. Le marché immobilier, comme tout marché, n'est pas naturel ou spontané, mais institué. Marcos Ancelovici, préface de « Défendre le logement ». Mieux seul que mal accompagné. Très chère mère, la majorité des femmes qui m'entourent vivent seules, de 45 à 85 ans, parfois dans un studio grand comme ta salle de lavage de banlieue. 42% des gens âgés de 85 ans et plus vivent seuls, mais ça grimpe à 53% pour les femmes. Une fois que nous avons remis nos enfants à la société, au marché, dirait Chomsky, notre valeur Tinder, le centrice des célibataires et autres maraudeurs, baisse avec l'âge ou selon le nombre de gamins que nous avons eus. Oups! C'est culturel, la vieillesse, et assez récent, si on s'intéresse à nos aïeux. Les femmes n'ont pas encore gagné ce droit, celui de vieillir en paix et dans le respect. Un jour, la crise du logement sera peut-être un motif raisonnable pour demander l'aide médicale à mourir. Ce n'est pas un hasard si dans le récent film de François Ozon, « Quand vient l'automne », les 2 amies retraitées, jouées par les délicieuses Hélène Vincent et Josiane Balasco, vivent seules. Dans le dernier Almodovar, « The Room Next Door », Julianne Moore et Tilda Swinton, passé la cinquantaine, sont seuls aussi. De l'Europe à l'Amérique, la femme vieillissante vit souvent en retrait du couple, soit par volonté algorithmique, soit par choix. La plupart de celles que je connais se sentent drôlement bien en solo. Elles ont mérité leur affranchissement. Dans le rôle du sacrifice de soi, de la charge mentale et des concessions, elles ont donné. Malheureusement pour nous, plus les crises s'accroîtront, plus les loyers augmenteront. Le tribunal administratif du logement a suggéré 5,9% de hausse des loyers cette semaine, du jamais vu. Plus nous serons tentés de chercher des coupables. Nous ne percevons le monde qu'à travers nos propres prismes. C'est l'avantage de vieillir, toutefois, ce qu'on perd en vision, on le gagne en perspective. C'était « Un éléphant dans la pièce vide », un texte de José Blanchette paru le 24 janvier 2025 dans Le Devoir.
Passion Poire, offrir de la musique à sa saveur. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 26 janvier 2025 dans le magazine Fugue. Peut-être avez-vous vu Passion Poire sur Instagram ou au Festival Fierté Montréal. Ce qui demeure certain, c'est que l'artiste occupe une place de plus en plus remarquée, que ce soit sur scène, sur les réseaux sociaux ou même à la télévision, offrant une pop rythmée, dansante et en français, que l'on peut découvrir sur son premier album, « Pression des poires », sorti il y a quelques mois. Plus récemment, Passion Poire a repris à sa manière la chanson « Comme ils disent » de Charles Aznavour. Comment décrirais-tu ta musique? Quelles sont tes principales inspirations? Je décrirais ma musique comme une pop dansante décomplexée queer, mais surtout introspective. Un peu dans le même genre que Stromae, dans le sens que les paroles sont deep, mais la musique est dansante. Dans mes autres inspirations, j'ai Daft Punk, Daddy Freyr, Beyoncé, je pense que c'est la première inspiration, Aya Nakamura et Pierre Lapointe si on parle de la musique au Québec. Sens-tu qu'il manque de la pop dansante au Québec? C'est sûr que je sens qu'il en manque. Au Québec, la pop qu'on fait, elle est plus douce, plus calme. Ça a sa place, certes, mais si on regarde ce qui se passe en France en ce moment, avec Vita et Maître Gims, ou en Belgique, avec Stromae et Angèle, il y a de la pop plus dansante, plus rafraîchissante, plus actuelle. Et quand je dis actuelle, c'est très centré sur les États-Unis. Tu es allé aux auditions de Quel talent au Québec et de la France a un incroyable talent en France, sans passer aux étapes suivantes. Comment as-tu vécu ces expériences? Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai filmé Quel talent, puis la soirée même, j'embarquais dans l'avion pour aller filmer La France a un incroyable talent. Donc, c'était vraiment intense comme expérience. C'était la première fois que j'allais en Europe. J'étais vraiment flabbergasté. C'était un mois de juillet très rempli. On dirait que j'ai été plus bummed out au Québec. Mais quand je suis arrivé en France et qu'ils m'ont dit que je ne passais pas à la prochaine étape, je me suis dit « Ben, actually, je suis en France, je suis là pour l'expérience. » Au Québec, ça m'a fait un peu plus mal. Mais at the end of the day, honnêtement, je vois ça comme une expérience. Et ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. D'où vient le titre de l'album « Pression des poires » J'en parlais avec mon gérant et on ne trouvait pas de nom d'album. J'avais pas le goût que mon album soit genre « Passion poire » parce qu'il y a quelque chose qui me cringe vraiment avec la chanson « Passion poire » de « Passion poire » sur l'album « Passion poire ».« It's giving full if myself, which I am, but not that much. » « Pression des poires » vient d'un groupe d'amis qui date du cégep. Je trouvais ça tellement bon et drôle quand les gens se faisaient « peer pressure » de dire « pression des poires » ouvertement. Parce que généralement, c'est quelque chose qui se fait subtilement. Avec mon projet et avec le fait que j'ai de la FOMO, « fear of missing out » 24/7, mais que j'aime mieux rester chez moi, on dirait que tout s'alignait. Tu te définis comme étant non-binaire. Sens-tu que les personnes non-binaires sont encore discriminées au Québec? Pas juste au Québec. J'ai pas l'impression que la non-binarité est acceptée dans la société en général. Il y a un genre d'incompréhension. Je me dis non-binaire parce que présentement je suis un peu plus en recherche identitaire, de genre surtout. J'ai toujours eu un struggle avec le genre. On dirait que le fait de dire « je suis non-binaire », ça me permet de plus méditer là-dessus. Il y a plusieurs formes, tout le monde le vit à sa façon. Mais les gens ont vraiment de la difficulté lorsqu'on en vient aux trans, lorsqu'on en vient aux personnes non-binaires. Il y a de la discrimination plus chez les straight, mais il y en a dans la communauté LGBTQ+. Il y a de la discrimination un peu partout. Je comprends que j'ai comme un rôle à jouer là-dedans, en tant que personne non-binaire. C'est un rôle que c'est pas toujours le fun à jouer, faire l'éducation des gens. Les gens, parfois, sont tellement pas mal intentionnés, mais at some point, on s'en fout si tes intentions sont bienveillantes ou pas. Si tu me demandes ce que j'ai entre les deux jambes, on a un problème. Peut-être qu'un jour ça va être accepté, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Tu travailles non seulement dans le milieu musical, mais aussi dans un organisme communautaire. Que fais-tu exactement? Qu'est-ce que cette expérience t'apporte? C'est ma passion on the side. Ben, je dis on the side, je travaille quand même 40 heures par semaine. Je suis éducatrice dans un centre pour les enfants polyhandicapés. C'est un peu comme la job de préposé aux bénéficiaires. Je donne des soins, je change des couches, je donne des médicaments. On top of that, on anime des activités. C'est un peu comme un camp de jour spécialisé, si on veut. C'est un répit. En fait, les personnes polyhandicapées, même si elles sont incroyables, pour les parents qui vivent avec eux 24/7, ça peut rapidement être très lourd. Parfois, les parents n'ont plus de vie privée, n'ont plus de vie, point. Leur vie devient leur enfant. On parle de déficience physique et intellectuelle ensemble. C'est des enfants qui sont en fauteuil roulant et qui ont certaines incapacités avec leur autonomie, allant de personne qui parle, qui est verbomotrice, à personne qui ne peut même pas s'alimenter. Honnêtement, c'est les plus belles connexions que j'ai faites, autant avec les jeunes qu'avec mes collègues. J'adore vraiment mon travail. C'était Passion Poire, offrir de la musique à sa saveur. Une entrevue réalisée par Philippe Granger, parue le 26 janvier 2025 dans le magazine Fugue.